Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Du fond de l'abîme, je crie vers vous, Seigneur. Seigneur, écoutez mon appel. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le dimanche de la Septuagésime. Voici que commence la deuxième partie de l'année liturgique. Désormais, il nous est interdit de louer Dieu avec des cris de joie, le cri de joie que nous utilisions jusqu'à présent, que nous retrouverons lors de la vigile pascale, le cri de joie spécial de la liturgie pour louer Dieu. Nous n'avons plus le droit de le dire. Nous n'avons plus non plus le droit de glorifier notre Dieu en chantant le Gloria à la messe. Désormais, nous n'aurons plus de Gloria lors des messes du dimanche. Pourquoi ? Eh bien parce que, mes très chers frères, nous pouvons dire que, d'une certaine façon, nous sommes rattrapés par nos péchés. Et l'Église veut que nous fassions pénitence, mais tous ensemble. C'est pour cela que nous soyons des justes ou des pécheurs, ou un peu justes, un peu pécheurs, etc. Faisons pénitence tous ensemble, puisque commence avec la Septuagésime le temps de la pénitence qui commencera, disons, très particulièrement lors du mercredi des cendres, bien entendu. C'est pour nous y disposer que l'Église nous fait entrer progressivement dans le temps de carême, disposer à la pénitence. Sachons écouter à salut la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous nous pencherons sur les textes de la messe de la Septuagésime. Et dans un premier temps, nous exposerons, nous formulerons une vérité fondamentale et préalable à toute bonne œuvre. Et cette vérité, c'est la suivante, tout ce qui est fait sans Dieu est vain. Et cela nous amènera à parler de nous poser la question, comment travailler dans la vigne du Seigneur ? Dans un deuxième point, nous verrons comment courir de manière à remporter le prix, selon l'enseignement de saint Paul. Et nous donnerons quatre conseils. Et dans un troisième point, brièvement, nous verrons comment vaincre le découragement et toute tentation au désespoir. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Vous avez entendu, mes très chers frères, la lecture de la parabole des ouvriers de la 11e heure. C'est une parabole longue, fort belle, assez compréhensible d'une certaine manière, même s'il y aurait bien des choses à dire, et avec l'aide du Saint-Esprit, nous ne nous attacherons qu'au sens moral. Il y a dans cette parabole une leçon fondamentale. Tout ce qui n'est pas fait pour Dieu est fait en vain. Nous pouvons la reformuler, cette vérité, de la façon suivante. Tout ce qui n'est pas fait avec la grâce est sans mérite pour la vie éternelle. Tout ce qui est fait sans la grâce de Dieu mérite l'enfer, puisque, d'une manière ou d'une autre, oser ou prétendre faire le bien sans la grâce de Dieu et sans Dieu qui est l'origine de tout bien, c'est une manière d'être outrecuidant vis-à-vis de Dieu, d'être insolent. Et tout insolent mérite le châtiment. Cette vérité est si importante que nous pouvons encore la formuler de la manière suivante. Tout ce qui n'est pas fait par la charité est fait par la concupiscence. Tout ce qui n'est pas fait par la charité est donc accompli sous la motion de la concupiscence. La concupiscence, qu'est-ce que c'est ? C'est cette tendance innée en nous depuis la chute qui nous fait nous aimer nous-mêmes d'une façon désordonnée, c'est-à-dire qui nous fait nous aimer nous-mêmes plus que Dieu et plus que les commandements de Dieu. La concupiscence peut être décrite aussi sous un autre angle, et c'est cette tendance irrépressible dans l'homme déchu à préférer la créature plutôt que le créateur. Tout ce qui n'est donc pas fait par la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, est fait par la concupiscence. Et Dieu sait, hélas, si la concupiscence peut faire des miracles, ou plus précisément des prodiges qui sont plutôt des parents des prodiges diaboliques. Par la concupiscence, nous pouvons beaucoup. Il n'en reste pas moins que sans le Christ, nous ne pouvons rien, en réalité. Nous avons beau, nous dit un auteur qui commente ce texte aujourd'hui, nous avons beau être très occupés devant les hommes, nous sommes oisifs pour Dieu. C'est une citation de notre Saint-Père Augustin. Nous avons beau être très occupés devant les hommes, nous sommes en réalité oisifs pour Dieu tant que nous n'agissons pas par la charité. Alors, au lieu d'être découragé ou même révolté, ça peut arriver, par cette doctrine, considérons plutôt ce qui suit. Posons-nous la question, comment travailler utilement, avec fruit, à la vigne du Seigneur Sabaoth ? Comment travailler dans la vigne du bon Dieu ? Alors, nous donnerons, comme nous l'avons indiqué, nous donnerons quelques conseils, tout d'abord. Comment travailler dans la vigne du Seigneur ? Tout d'abord, il faut être appelé. Et c'est pour cela qu'il est écrit à un père de famille qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il faut tout d'abord être appelé. Nul n'œuvre pour Dieu sans que Dieu l'y ait appelé en premier. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit notre Seigneur à ses apôtres, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai envoyé. Les différentes heures qui sont mentionnées dans cette parabole, nous disent les pères, représentent plusieurs choses, mais en particulier les différents âges de la vie de l'homme. Le matin, c'est l'enfance, etc. Vous avez compris la suite. C'est plus le temps passe, plus on grandit en âge. Et la 11e heure, c'est l'âge de la décrépitude, c'est l'âge de la fin. Et pourtant, à toute heure, Dieu appelle des gens à travailler dans sa vigne. C'est-à-dire, il les appelle à travailler ici-bas pour la vie éternelle. Nous devons travailler après avoir été embauchés par notre Seigneur. C'est-à-dire, comment notre Seigneur nous embauche-t-il ? Eh bien, lorsque la Providence nous installe dans tel état de vie chrétienne. Pour chaque état de vie chrétienne, nous devons avoir quelque chose que l'on pourrait, sans témérité, qualifier de vocation. Il faut bien sûr une vocation, on parle souvent de vocation pour la prêtrise, pour l'état religieux, c'est vrai, mais sous un certain rapport, il n'est pas exagéré, même s'il ne faudrait pas exagérer, mais de parler d'une vocation pour l'état laïque aussi. L'état laïque, comme l'état religieux et l'état clérical, est un état surnaturel qui commence par le baptême. C'est l'état, tous les chrétiens commencent par être laïcs, et ensuite, si j'ose dire, ils entrent dans des voies plus précise, plus parfaite peut-être, mais la voie laïque est déjà une voie très parfaite par rapport à la voie profane qui est celle des mécréants, de ceux qui méprisent leur baptême ou de ceux qui ne sont pas baptisés. Donc il faut quelque chose qu'on pourrait appeler une vocation pour entrer dans tel ou tel état de vie chrétienne. Ce n'est qu'à ce titre-là qu'il nous y incombe d'y travailler à notre sanctification. Dieu ne nous appelle pas à l'oisiveté, mais à la sanctification. Chaque état comporte des modalités différentes de la sanctification, mais les moyens sont différents, les modalités sont différentes, mais les moyens sont uniques. Quel est l'unique moyen ? C'est l'obéissance et la fidélité. Donc tout d'abord, il faut être appelé. Alors vous allez dire, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est appelé et quelqu'un qui n'est pas appelé ? Ben, quelqu'un, par exemple, qui se marie dans le monde, fait déjà mieux que quand il se marie avec une femme, il se marie, il fait déjà mieux que de faire autre chose, mais en même temps, il n'est pas appelé d'une façon spécifique par Dieu à la sanctification. Il agit comme les enfants de ce monde, et on est bien content quand ils agissent encore comme ça aujourd'hui. Un chrétien qui se marie et qui demande à l'Église de bénir son union, eh bien, qui se marie dans le Christ, comme il est dit dans l'Écriture, est appelé par Dieu dans cet état de vie chrétienne qui est l'état des gens mariés. Et ainsi de suite, c'est plus évident pour le sacerdoce ou pour la religion, mais ça suit le même principe et ce n'est pas quelque chose qui suit une autre loi. Donc il se trouve, mes très chers frères, que dans la mesure où nous avons été appelés, nous devons nous atteler à travailler dans la vigne du Seigneur, qui est l'état dans lequel nous nous trouvons. Tout d'abord, avoir été appelé. Ensuite, pour travailler dans la vigne du Seigneur, il faut, selon les termes de cette parabole, accepter le salaire, selon qu'il est écrit, et étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. On peut penser que c'est une manière un peu étrange de s'exprimer, puisque en réalité, notre Seigneur dicte notre salaire et nous le recevons avec gratitude. N'allons pas trop loin, voyons les choses telles que l'Église nous l'enseigne. Lorsque quelqu'un, mettons un adulte, veut se convertir, lorsqu'il sent en lui quelque chose qui le pousse à se convertir, à devenir membre de l'Église, et c'est la grâce qui travaille en lui, que faut-il faire ? Il faut qu'il soit instruit. Il faut que les prêtres l'instruisent, et lorsqu'il est instruit, parmi les choses qu'il apprend, il apprend la nature du salaire de ceux qui travaillent dans la vigne. Et c'est un denier. Les pères, en commentant ce passage, nous disent que ce denier n'est pas mentionné par hasard. Vous vous souvenez, lorsque notre Seigneur fut interrogé sur la question de l'État et de Dieu, il a demandé un denier. Et les pères ont développé un enseignement sur le fait que l'image de César, l'image du roi, l'image de l'autorité temporelle, est inscrite, figure sur ce denier. Nous retrouvons ce denier ici, toujours avec le même symbolisme. Un denier. Il faut comprendre que lorsque nous travaillons dans la vigne du Seigneur, nous gagnerons un denier. Ce denier, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, nous dit, je suis toujours les commentateurs, bien entendu, il porte, nous l'avons dit, l'image du roi. C'est-à-dire que pour recevoir le salaire, il faut savoir que le fait de travailler à la vigne du Seigneur est en soi déjà un salaire, sachant que le salaire, le vrai salaire, nous l'obtiendrons dans la vie éternelle. C'est important. Nous travaillons pour gagner l'image du roi, c'est-à-dire par l'obéissance, nous sommes réformés à l'image de Dieu, qui a été très déformé en nous à cause de la chute. Plus nous obéissons à Dieu, plus l'image de Dieu en nous est restaurée en nous. Tout homme est fait à l'image de Dieu, sinon il ne serait pas de l'espèce humaine. Maintenant, l'image en Dieu est si ternie, si effacée, si affaiblie, que de toutes les espèces de créatures vivantes dans la création, l'homme apparaît comme la plus monstrueuse. C'est une chose que l'on dit assez fréquemment aujourd'hui. La chose est vraie, mais évidemment, après, il ne faut pas dire n'importe quoi, c'est l'interprétation qu'on en donne qui doit être orthodoxe. L'homme est monstrueux parce qu'il ne ressemble plus à l'image du Dieu, à l'image duquel il a été créé. Donc voyez-vous, mes très chers frères, il faut comprendre que le salaire consiste dans une progressive restauration de notre être tout entier à l'image de Dieu, autant que cela est possible ici-bas et autant que Dieu le permet. L'obéissance nous réforme à l'image de Dieu, et il faut donc travailler, il faut savoir que travailler dans un autre but que d'obéir à Dieu, c'est profaner l'image de Dieu qui est en nous, à laquelle nous avons été faits, et qui doit être restaurée en nous. Voyez-vous ? Nous ne gagnons pas l'image de Dieu, nous sommes faits à l'image de Dieu, ne pas obéir à Dieu, c'est profaner ce qui reste d'image de Dieu en nous. Voilà la première chose qu'on doit dire de ce denier. Il faut accepter le salaire est un denier. Et la deuxième chose qu'on doit dire de ce denier, mes très chers frères, c'est que, nous disent les commentateurs, le denier était autrefois divisé en dix pièces, c'est-à-dire dix pièces faisaient un denier. Il s'agit évidemment, mes très chers frères, des 10 commandements. Nous ne pouvons travailler en vue de la récompense que dans la mesure où nous mettons en pratique l'essence de cette récompense. La récompense, c'est Dieu, et le travail, c'est l'obéissance au Dieu qui nous donne 10 commandements pour que nous travaillions de manière à mériter sa récompense. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Dans la vie, il y a beaucoup de cercles vicieux, et c'est une chose terrible, mais il y a aussi quelques cercles vertueux, et on les trouve toujours du côté de Dieu. Plus nous obéissons, plus nous sommes restaurés à l'image de Dieu, plus nous obéissons spécialement aux 10 commandements, puisque c'est ça la synthèse de la loi que Dieu nous a donnée, plus nous obéissons aux 10 commandements, plus aussi nous méritons le denier éternel, c'est-à-dire la vie éternelle. Nous disons les 10 commandements, ni plus ni moins. Il y a une très grande, j'en profite pour faire un tout petit aparté ici, il y a une très grande impiété à prétendre que si les hommes pouvaient déjà obéir à quelques commandements, sinon les 10, du moins 7, c'est-à-dire que, vous savez, on dit souvent, au moins autrefois, l'école de la République enseignait la morale, certes la morale républicaine, mais qu'est-ce que la morale républicaine, sinon les 10 commandements amputés de leur référence à Dieu. Alors déjà, ça fait 3 commandements, et le nombre 10, n'importe quel père vous expliquera que c'est une perfection, il désigne une perfection. N'obéir qu'à 7 commandements et transgresser 3 commandements, c'est transgresser tous les commandements. Quand on s'abstient de voler, quand on s'abstient de mentir, quand on s'abstient de convoiter, de dérober le bien d'autrui, et qu'on ne le fait pas pour Dieu, certes, ça vaut mieux que faire le contraire, mais du point de vue de Dieu, ce n'est pas méritoire. Voyez-vous ? N'en tirons pas des conclusions hâtives en disant « donc ça veut dire qu'on peut dire à tout le monde de faire n'importe quoi ». Non, vous le savez très bien, nous l'avons déjà expliqué plusieurs fois. Ça signifie simplement, mes très chers frères, que quand on enseigne, quand on se prétend catholique, et qu'on enseigne publiquement, qu'on dit publiquement que 7 commandements c'est déjà bien, c'est comme si on crachait au visage de Dieu. Car Dieu nous a donné 10 commandements, il ne nous a pas donné 9 commandements, il ne nous a pas donné 11 commandements, il nous a donné 10 commandements. Enseigner aux hommes ou leur suggérer d'obéir à certains commandements et suggérer que la société se porterait très bien si seulement un certain nombre de commandements étaient déjà mis en pratique, c'est se tromper fondamentalement du point de vue des principes. Je ne dis pas, après, évidemment, c'est toujours plus sympathique quand son voisin mécréant est plus ou moins moral. Mais je ne parle pas du point de vue pratique, je parle du point de vue théorique qui est le plus important. Voyez-vous, mes très chers frères, le denier est composé de 10 pièces qui renvoie aux 10 commandements, ni plus ni moins, il s'agit de la foi, il s'agit de les mettre en pratique par la foi opérant par la charité. Celui qui observe les 10 commandements par la charité mérite la récompense éternelle. Celui qui observe certains commandements et qui plus est sans la charité mérite d'être châtié plus sévèrement. Pourquoi ? Plus sévèrement parce que, ayant fait un effort pour pratiquer un certain nombre d'actions bonnes, il démontre qu'il était capable d'une certaine idée du bien. Or, si, étant capable d'une certaine idée du bien, il n'a pas accepté l'idée que le bien ne peut se faire que par la source de tout bien, il a montré une plus grande malice que celui qui transgresse les commandements. Malheur à celui qui transgresse les commandements, malheur encore plus à celui qui prétend en accomplir quelques-uns sans la charité. Voyez-vous, mes très chers frères, il faut accepter le salaire. Le salaire, c'est un denier. Et la troisième chose pour travailler dans la vigne du Seigneur Sabaoth, eh bien, c'est qu'il faut être fidèle. Fidèle par gratitude et non par émulation malsaine. Sous un certain rapport, à la fin de cette parabole, on voit les ouvriers qui étaient là dès la première heure, qui ont porté le poids du jour et le poids de la chaleur, qui ont souffert en quelque sorte sous la vigne, en plein soleil, pour récolter le maximum de raisins, de grappes, murmurer contre le père de famille, au point que le père de famille lui dit « Vois-tu d'un mauvais œil, ou ton œil est-il mauvais, parce que je suis bon ?» Faisons le bien, mes très chers frères, sans nous lasser, comme nous l'enseigne saint Paul, faisons le bien sans nous lasser, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Rien ne sert d'avoir commencé à la première heure, c'est-à-dire dès son enfance, si l'on peut dire, la pratique de la vie chrétienne, si c'est pour faire preuve de jalousie vis-à-vis de ceux, eh bien, qui reçoivent gratuitement la grâce, non moins gratuite que nous, mais plus tard, de telle sorte que nous sommes tentés par l'idée que Dieu est injuste avec les récompenses qu'il donne à ses enfants. Faisons très attention. Il faut être fidèle par gratitude, par reconnaissance, et non par émulation malsaine. Car sinon, cette jalousie nous ferait perdre le prix de notre travail. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet, après avoir défini comment travailler dans la vigne du Seigneur. Maintenant, posons-nous la question, c'est notre deuxième point, comment courir de manière à remporter ce prix ? Vous l'avez compris, c'est la vie éternelle, c'est notre deuxième point. Courez de manière à le remporter. Ne savez-vous pas, mes frères, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez donc de manière à le remporter. Comment, interrogeant saint Paul, interrogeant la tradition d'Église, comment courir de manière à remporter le prix. Premier conseil, premier point. Pour courir de manière à remporter le prix, il faut courir selon notre état, encore une fois. C'est-à-dire que rien ne sert de courir si c'est dans une piste qui n'est pas la nôtre. Si je dois courir le 500 mètres et que je me mets à courir dans le chemin des gens qui font le 100 mètres, si je me mets à courir avec un relais alors que je dois faire un marathon, je ne remporterai certainement pas le prix parce que je ne suis pas là où je dois être. C'est-à-dire selon notre état. Il y a divers états, nous en avons parlé, nous en parlons maintenant d'autres états, qui sont totalement illusoires. Je dois en parler, j'en ai déjà parlé, je dois en parler un tout petit peu afin de ne pas donner l'impression que c'est un sermon qui sort du Moyen-Âge et qui ne prend pas en compte l'aberration de l'époque dans laquelle nous vivons. Non pas qu'il n'y ait pas eu d'aberration au Moyen-Âge, mais enfin, il y en avait moins qu'aujourd'hui. Alors, et c'est différent aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est absolument sans dessus-dessous. L'état d'influenceur, et tout ceci peut se décliner au féminin évidemment, l'état d'influenceur, l'état de vidéaste, quand bien même on gagnerait sa vie avec. L'état de journaliste engagé, qui est tout à fait différent, mais qui est un état aussi qui existe aujourd'hui, c'est un métier, l'état de journaliste qui plus est engagé. L'état d'apôtre d'Internet, que ce soit qu'on ait un site comme ça, ou qu'on fasse des chansons sur l'Internet, qu'on publie des livres, qu'on fasse des émissions, radio, Martion, etc. Bon, tout ceci, c'est aussi un état illusoire. L'état aussi de commentateur, ça c'est les auxiliaires des apôtres d'Internet, c'est-à-dire ces gens qui mettent des petits pouces bleus pour le référencement, et puis qui mettent des commentaires pour faire avancer le truc. Vous voyez, cet état de commentateur, qui est un état intermittent en quelque sorte, parce qu'il n'exclut pas le fait d'être dans un autre état, vous voyez, tous ces états, aussi divers soient-ils, sont des états qui sont absolument illusoires. C'est-à-dire, ce sont des états, je ne dis pas qu'ils n'existent pas, puisque nous parlons de choses que des gens font. Je dis qu'il est absolument impossible de mériter la vie éternelle quand on s'y trouve. Parce qu'on ne peut pas gagner le prix si l'on ne court pas dans les couloirs prévus par Dieu pour que nous y courions, pour que les êtres humains y courent. C'est, a fortiori, ces enfants y courent. Un autre état illusoire, c'est l'état d'apostolat. Terminons-en là, ce n'est pas la peine de continuer, vous avez compris de quoi nous parlons, mes très chers frères. Autant d'états, autant d'apostolats, autant d'illusions. Il y a un autre état aussi qui est bien moins voyant et qui est beaucoup plus gratifiant, c'est l'état d'éminence grise. On n'apparaît jamais sur l'Internet, mais on contacte les gens en MP, vous voyez, en message privé, et on fait avancer les trucs, on féconde les esprits, on lance des idées, on signale des choses, de telle sorte que tout d'un coup, tout en étant dans l'ombre, on a la satisfaction de voir éclore les idées qu'on a semées par-ci, par-là, chez les gens qui sont plus dans le public. Voyez-vous, mes très chers frères, c'est aussi un état, c'est peut-être un état encore pire, parce que comme il est invisible, c'est un état qui donne l'impression de ne pas être un état illusoire. Il est doublement illusoire. Autant d'états illusoires, autant d'illusions, autant d'esclavage de la concupiscence, mes très chers frères. Car autant on peut être la proie de la concupiscence quand on est dans un vrai état, quand on est dans un état illusoire, un état de vie illusoire, on est esclave de la concupiscence au maximum. Autant d'ambitions qui ne servent que l'antéchrist, en vérité. Tous ces gens qui font toutes sortes de petites choses et qui s'imaginent être de grandes choses et qui préparent de très grandes choses, mais très chafin, au mieux, s'ils doivent avoir une influence, c'est dans le sens de l'antéchrist. Nous pourrions développer, mais on a d'autres choses plus intéressantes à voir, mes très chers frères. Autant de collaborateurs de l'antéchrist, des petites mains de l'antéchrist, si j'ose m'exprimer ainsi. Les états qui existent, voyez-vous, mes très chers frères, sont extrêmement différents de ces états illusoires. Et encore, parlons d'eux maintenant, lorsqu'ils existent, ils doivent être nécessairement insérés dans la réalité ecclésiale. Sans quoi, mes très chers frères, ils sont stériles. Vous savez que les prêtres vagus, les prêtres qui ont obtenu, on ne sait comment, d'être ordonnés par on ne sait qui, et qui ont leur ministère, etc., et qui font leur magouille de leur côté, et c'est la plupart du temps, pas forcément de façon ridicule ou subversive, disons qu'ils font leur chose, ces prêtres-là, néanmoins, communiquent des sacrements, quand bien même ils seraient valides, ils transmettent, ils communiquent des sacrements qui sont privés de fruits. Leurs confessions sont invalides, ça c'est certain. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'absoudre les péchés, puisqu'ils sont dans le désordre. Et essentiellement les bénédictions ou a fortiori la Sainte Communion qu'ils donnent est privée de fruits. C'est-à-dire que quand bien même on les reçoit, quand bien même ce sacrement est valide, il n'apporte pas la grâce sanctifiante. Pourquoi ? Parce qu'il est communiqué dans le désordre. Cela est vrai pour les prêtres vagus, les prêtres qui sont sans évêque ou si peu, qui ont si peu d'évêques. Maintenant, n'oublions pas aussi autre chose. Ça, c'est vrai pour les prêtres, mais je dirais aussi que les parents qui ont des enfants, donc qui sont dans une situation, les parents sont aux enfants, mutatis mutandis, ce que les prêtres sont au troupeau du bon Dieu. Donc, il se trouve, mes très chers frères, que les parents catholicoïdes, christianoïdes, qui se prétendent chrétiens, et qui éduquent leurs enfants, mais en dehors de toute communion ecclésiale, qui ne font pas partie de l'Église, mais qui s'imaginent catholiques parce qu'ils professent la religion catholique selon les livres, voyez-vous, mes très chers frères, ces parents-là ne transmettent aucune grâce à leurs enfants, pas plus que les vagus ne transmettent de grâce. Ils transmettent une bonne éducation, mais les vagus transmettent des sacrements qui peut-être sont valides, mais il n'y a pas de grâce qui est véhiculée par eux. Même chose pour les enfants. Les enfants sont éduqués dans la religion chrétienne, certes, et c'est déjà bien. Mais de quelle grâce les parents sont-ils les véhicules pour leurs enfants, eux qui ne reçoivent rien de l'Église dont ils ne font pas partie? Ce sont des choses terribles. Alors vous allez dire, c'est terrible ce que vous dites, c'est même décourageant. Non, ça encourage à se mettre dans l'Église, à demander humblement à l'Église de nous intégrer parmi les membres du corps mystique du Christ. Pourquoi se décourager? Voyez-vous, mes très chers frères, ça c'est prendre le problème à l'envers. Quand on est dans l'Église, voyez-vous, mes très chers frères, eh bien, il ne faut pas oublier que on peut encore perdre la grâce en étant mondain. Ceux qui sont en dehors de l'Église n'ont rien. Ceux qui sont dans l'Église, là où il faut être, peuvent perdre tout dans la mesure où ils sont mondains. C'est-à-dire, dans la mesure où, laissant leur moi, leur vieil homme les guider, quoi qu'ils soient là où il faut, eh bien, ils entravent la grâce d'État, de telle sorte que, travaillant dans la vigne du Seigneur, contrairement aux autres, ils ne reçoivent pas le salaire qui doit être le leur, parce qu'ils sont mondains. Donc, comment travailler dans la vigne du Seigneur selon notre état? Vous l'avez compris. Maintenant, deuxième point. Comment travailler dans la vigne du Seigneur? Voyez-vous, en portant le poids et la chaleur du jour. Prenons un chrétien qui est dans son état, dont l'état est inséré dans la réalité ecclésiastique, et qui est véritablement chrétien, authentiquement membre du corps mystique du Christ, c'est-à-dire de l'Église catholique, pas de la néo-église, pas de la para-néo-église, pas des églises parallèles, pas des routes de secours, etc. Vraiment de l'Église. Ce chrétien-là, pour travailler dans la vigne du Seigneur, doit encore travailler en portant le poids et la chaleur du jour. Alors vous allez dire, oui, mais tous ne le font pas. Tous ne sont pas appelés à la même heure, c'est vrai, mais que chacun se considère comme devant travailler le plus longtemps possible, parce que sinon c'est de la témérité. Donc Dieu nous a appelés, puisque vous êtes là mes très chers frères, c'est que Dieu vous a appelés. Il faut donc maintenant prendre conscience que si nous ne souffrons pas pour le Christ, si nous ne souffrons pas pour la vérité, de la foi, de la religion chrétienne, alors nous ne sommes pas, nous sommes comme ces ouvriers qui passent leur temps à chercher de l'ombre et à se reposer plutôt que de travailler de manière à faire l'œuvre commise à eux par le patron et ensuite à gagner honnêtement leur journée. Voyez-vous, souffrir pour le Christ, porter le poids et la chaleur du jour. Attention, souffrir pour le Christ, ce n'est pas souffrir, ce n'est pas être persécuté pour des raisons qui n'ont aucun rapport avec la justice. Nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps. Je vous renvoie au sermon précédent, si vous vous souvenez, mes très chers frères. Attention, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont bio, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'acceptent pas telle ou telle chose pour telle ou telle raison, peut-être légitime, mais ils en font, comme nous disions, une religion, un commandement à part entière. Ils souffrent à cause de cela, univoquement pour cela, et ils souffrent, et souffrant, ils s'associent avec des gens qui souffrent de la même, pour les mêmes raisons, mais qui ne sont pas du tout chrétiens, montrant par là qu'ils portent le poids et la chaleur de quelque chose, mais ce n'est pas le jour de Dieu, si j'ose dire. Voyez-vous, mes très chers frères, faisons attention. Ce n'est pas parce qu'on est persécuté pour une raison ou pour une autre que l'on souffre pour le Christ. Imaginez qu'un baptisé fasse un braquage, soit attrapé, aille en prison. Il est persécuté, il est privé de sa liberté, il est privé de la jouissance de sa famille, il ne voit plus ses enfants, il ne voit plus sa femme, Est-ce qu'il est persécuté pour la justice? Pas du tout. Il souffre à cause de ses propres péchés. Voyez-vous, mes très chers frères, lorsqu'un chrétien souffre pour des raisons, pour les mêmes raisons pour lesquelles souffre un mécréant, eh bien, ce n'est pas méritoire, même si les deux peuvent se recouper à certains moments, mais ce n'est pas volontaire, c'est juste que les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc voyez-vous, mes très chers frères, attention, il faut souffrir de façon méritoire, c'est-à-dire souffrir pour le Christ, être persécuté à cause de la justice et pas à cause de ces tocades et autres choses qui remplacent les commandements de Dieu. Combien de gens sont absolument disposés à tout souffrir et à ne faire aucun compromis avec telle ou telle loi qu'ils se sont imposées à eux-mêmes ou à leur famille? Et qui prennent les commandements de Dieu totalement par-dessus la jambe parce qu'on ne peut plus, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas, etc. Voyez-vous, ces gens-là ne méritent rien et que Dieu les convertisse, c'est tout ce que je peux dire. Voyez-vous, mes très chers frères. Donc, il nous faut supporter le poids et la chaleur du jour. Ensuite, troisième chose pour courir de manière à remporter le prix, il nous faut aussi s'abstenir de tout, afin de ne pas perdre le prix de la course. Nous en avons déjà dit un mot par rapport aux gens qui travaillent depuis la première heure, mais qui sont finalement jaloux de ceux qui ont été sauvés à la 11e heure, qui ont été employés à la 11e heure. Il nous faut nous abstenir de tout. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça ne signifie pas qu'il faut vivre comme des sauvages, évidemment. Ça signifie plutôt, voyez-vous, mes très chers frères, que nous devons à Dieu une obéissance absolue qui soit exclusive des désirs et des concupiscences de la chair. Allons un peu plus loin. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous devons obéir à Dieu toujours plutôt que faire notre volonté propre. Nous devons avoir sous nos yeux la raison d'être de notre obéissance, de telle sorte que nous ne perdions pas le prix de la course, c'est-à-dire que nous ne laissions pas la nature prendre le dessus sur la grâce dans nos actions. Cela peut être une tentation quand on est chrétien depuis longtemps, qu'on fait les choses bien, qu'on obéit habituellement à Dieu par amour de Dieu, et à un certain moment on bifurque en quelque sorte et on est d'autant plus motivé à faire telle ou telle chose qui appartient à notre état, mais pour des raisons tout d'un coup temporelles et non plus simplement et non plus essentiellement spirituelles. Il y a toujours une raison temporelle, bien entendu, sinon ça n'existerait pas, mais la motivation est surnaturelle. Imaginez par exemple quelqu'un qui par devoir ferait telle ou telle chose et qui tout d'un coup découvrirait qu'il a une grande satisfaction, un grand plaisir à faire cette chose. Si c'est vrai, tant mieux pour lui, c'est une grâce d'aide, bien sûr. Mais si tout d'un coup, il se mettait à faire cette chose uniquement parce qu'elle lui plaît, et non plus pour faire plaisir à Dieu, pour plaire à Dieu, pour obéir à Dieu, il s'opérerait dans sa volonté une sorte de glissement qui commencerait à lui faire perdre le prix de la course, le prix de la journée, le prix du travail. Voyez-vous, mes très chers frères, ce sont des tentations qui se posent essentiellement aux bons chrétiens, car il y a des tentations quand on piétine à l'entrée, il y a des tentations quand on commence, et il y a aussi des tentations quand on est bien avancé dans les voies de la justice. Il faut donc s'abstenir de tout en vue de ne pas perdre le prix de la course. Si Dieu permet que nous réussissions dans nos divers devoirs d'État, alors nous devons être reconnaissants, mais nous devons aussi résister à la tentation de l'orgueil et du plaisir. Nous devons faire bon usage des biens que Dieu nous donne, de telle sorte que dans l'absolu, et bien sûr, ce n'est pas quelque chose que... Je le dis d'une façon comme un moraliste, et non pas comme en fonction de l'expérience, vous allez voir. Dans l'absolu, il vaudrait mieux que Dieu ne nous bénisse pas temporellement, plutôt qu'il nous bénisse. Mais comme cela ne se peut, et comme cela ne peut certainement pas se demander non plus, parce qu'il ne faut pas prier ce genre de prière téméraire, ça veut dire que lorsqu'on est un chrétien fidèle, lorsqu'on a un chrétien qui s'applique de tout son cœur à être excellent dans sa vocation, eh bien, il se trouve qu'on court le risque de réussir. On court le risque, et alors cette réussite, il faut l'accepter. Ce n'est pas paradoxal ce que je dis, ce n'est pas ironique, ce n'est pas de l'humour. On court le risque de réussir, et on court le risque d'être tout d'un coup face à des tentations plus grandes. Donc, plutôt que de dire au Seigneur « ne me faites jamais réussir », etc., ce qui est téméraire, il ne faut jamais le prier, il faut dire « Seigneur, quel que soit le résultat temporel de l'excellence que je m'efforce de déployer ou de pratiquer dans mon état, faites que je ne perde jamais de vue le prix de la course, faites que je m'abstienne de tout, quand bien même vous me donneriez beaucoup et de nombreux biens temporels. Que je sois toujours ennemi du plaisir, ennemi du luxe, ennemi de tout ce qui est une tentation et qui est indigne du nom de chrétien, que je fasse bon usage pour ma famille, pour l'Église, pour les pauvres, etc., des biens que vous me donnez, mais pour moi-même, que je sois toujours dans cette abstinence universelle de toute chose, de peur de perdre le prix de la course. » Voilà comment courir de manière à remporter. Une quatrième manière de courir de manière à le remporter, et toutes s'accumulent bien entendu, ne s'excluent pas les unes les autres, c'est, pour reprendre les paroles de saint Paul, en courant et en frappant, mais non au hasard. Non au hasard, mais selon les lois de son état. Nous revenons encore une fois dans cette notion d'État. L'État, comme c'est un État qui est réel, c'est un État qui est voulu par la Providence, c'est un État, il y en a un certain nombre, donc nous n'avons que l'embarras du choix, mais c'est plutôt la Providence qui choisit pour nous en réalité. Nous, lorsque nous considérons l'État dans lequel nous sommes et que c'est un État qui n'est pas illusoire, alors nous apercevons qu'il y a des lois dans notre État. Et ces lois sont les guides de notre course et de notre combat. Moi, dit saint Paul, je cours, et non comme au hasard, je combats, mais non comme frappant l'air. Quand on connaît bien les lois de son état, qu'on s'efforce d'y être parfait, quand on s'abstient absolument de sortir de son état pour aller courir dans des couloirs qui ne sont pas les nôtres, si j'ose dire, le moderne spécialement craint et redoute la monotonie. La monotonie, c'est ce que le moderne, c'est ce que l'homme en général, mais spécialement le moderne, redoute le plus. En quoi consiste-t-il ? Consiste-t-elle, selon le moderne ? Elle consiste dans cette espèce de routine qui fait que on fait les choses par habitude et non plus par passion. Le mot clé, le mot magique, le seul mot qui justifie tout en modernité, c'est le mot de passion. Quelqu'un fait-il un travail extrêmement difficile, extrêmement ingrat, qu'il soit manœuvre quelque part, qu'il fasse des travaux extrêmement difficiles, ou qu'il fasse un autre type de travail, par exemple dans les forces de l'ordre, etc., qui sont toujours confrontés à toutes sortes de choses plus ou moins désagréables, etc. On dit, pauvres gens, ces gens, ils n'ont pas vraiment un métier facile. Mais ils disent, oui, mais je le fais par passion. Ah, alors s'ils le font par passion, c'est bien. Il y a des métiers tout à fait abjects, tout à fait innommables que nous ne nommerons pas. On dit pauvres gens, les gens qui s'y... Mais si c'est fait avec passion, alors ça va. voyez, c'est, cette personne a la passion de son métier. Alors ça va, ça compense tout. Voyez-vous, mes très chers frères. La passion est véritablement la seule chose qui reste en modernité pour justifier qu'on fasse quelque chose qui, de prime abord, ne soit pas extrêmement intéressant ou ragoûtant, que sais-je, vous avez compris. La passion, c'est ce qui reste, c'est ce qu'on invoque lorsque on a perdu le sens du devoir. Imaginez que quelqu'un dise « je fais telle ou telle occupation, je fais tel ou tel métier, telle ou telle chose dans mon métier, dans mon état plus précisément, par devoir ». Cette personne apparaîtrait aux yeux du moderne tout d'abord comme quelqu'un de très triste, de très misérable, dans le sens où il est digne de pitié parce qu'il fait les choses par devoir. Et ensuite, parce que le moderne n'est pas simplement quelqu'un qui est désaxé, c'est un pervers, il va dire « oui, mais il y a quelque chose de malsain ». Quand une personne fait quelque chose de pénible, non pas par passion, mais par devoir et uniquement par sens du devoir, ça cache quelque chose, ce n'est pas possible, cette personne est un monstre. Eh bien, voyez-vous, mes très chers frères, ce sont ceux qui invoquent sans cesse la passion qui sont des monstres. Ce sont des monstres par rapport à la création, à la créature humaine telle que Dieu la veut. La passion, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que c'est le fait d'aimer beaucoup la chose? Oui, c'est ce qu'on dit. La passion, c'est le fait de se poursuivre soi-même sans relâche dans telle ou telle activité qu'on aura choisie, même si elle était très pénible, même si elle est très fastidieuse, etc. Voyez-vous, le moderne craint et redoute par-dessus tout la monotonie, conséquence de la perte de la passion. Le chrétien, en revanche, et non pas par réaction, mais parce que c'est lui qui était là avant le moderne, le chrétien ne fait rien par passion, il fait tout par devoir. Et ce devoir, il ne l'accomplit pas mollement, puisqu'il court, il combat, il frappe, il se prive de tout pour obtenir la récompense. Voyez-vous, mes très chers frères. La règle de l'action chrétienne, c'est qu'elle doit être faite sans passion, mais par amour de Dieu. La passion, c'est une parodie de charité. Autant l'amour de Dieu nous fait faire des choses qui dépassent les capacités humaines, autant la charité nous fait faire des choses qui dépassent la mesure humaine, autant la passion fait faire des prodiges qui semblent dépasser les capacités de la nature humaine, et même qui, sous un certain rapport, font paraître les chrétiens affectionnés à leurs devoirs comme des gens relativement mous et médiocres. Tous ces gens, encore une fois, je prends toujours cet exemple parce que c'est un truc très à la mode, mais ces gens qui se précipitent de falaises avec des petites ailes, avec des petits trucs, machin, pour qui volent, qui font du vol à voile, etc. Ces gens-là, évidemment, c'est vraiment, aujourd'hui, on peut dire, c'est vraiment la passion, le risque, la passion du risque, la passion de l'adrénaline, que sais-je, etc., toutes sortes de choses qui expliquent que ces gens-là sont des trompe-la-mort qui défient Dieu à chaque fois qu'ils font ceci. Et si jamais ils venaient à mourir dans cet état, et que par hasard ces gens-là étaient chrétiens, eh bien ils iraient en enfer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis en danger inutilement leur travail. Bien entendu, je le répète, des fois il y aurait des gens obtus, tous les métiers, des armes, etc., qui doivent faire des choses qui ressemblent à des choses un peu comme ça, mettre en danger leur vie, tout ceci est licite, puisque ça fait partie de leur devoir. Maintenant, pour pas... Les gens qui le font comme ça par pure passion... Ces gens-là sont véritablement des monstres qui méritent le châtiment éternel. Ce n'est pas moi qui le dis parce que je n'ai pas envie de le faire. C'est la religion chrétienne qui nous le dit parce qu'ils tentent Dieu et ils mettent en danger leur vie sans que Dieu le leur ait demandé. Et s'ils perdaient leur vie, ils ne pourraient pas compter sur la miséricorde de Dieu. Voyez-vous, mes très chers frères, la passion est quelque chose qui anime l'homme sans Dieu et qui lui fait faire des prodiges, mais ces prodiges ne sont rien face à Dieu. Ils sont même en abomination face à Dieu. Bien sûr, sous un certain rapport, on admire ces gens qui font des choses quand même très dangereuses, très, très osées, très, très risquées, et puis qui, la plupart du temps, ils survivent. Mais aux yeux de Dieu, Dieu les a en horreur. Pourquoi ? Parce que pour Dieu... Cela n'a aucun sens, aucun prix. Tout ceci est fait pour satisfaire entièrement, non pas simplement la volonté propre, mais alors là, dans ce cas-là, le désir animal de jouissance. On le sait très bien, il ne s'en cache pas. La passion, mes très chers frères, c'est la concupiscence à l'état pur. Sa norme, la norme de la passion, c'est la volonté propre. Sa durée, elle est selon l'inconstance du cœur humain. Alors vous allez dire, mais je connais des gens passionnés qui n'ont jamais fait qu'une seule chose durant toute leur vie. Eh bien, déjà, ça serait à voir, et ensuite, ça serait à vérifier, et ensuite, quand bien même cette passion est unique et dévorante, elle indique plutôt que l'on est un monstre d'amour désordonné de soi plutôt qu'autre chose. En revanche, si la passion est versatile et que tous les six jours on change de passion, on change de choses, c'est un signe tout simplement que l'on est stupide et qu'on est sot, on est plus sot qu'un enfant. Un enfant, dit un commentateur, un enfant qui court après les oiseaux et les papillons est moins fou qu'un adulte qui se livre à sa passion. Et on est plus sot qu'un enfant et plus sot qu'une bête, plus méprisable qu'une bête. Oui, une bête qui est sans raison, sans l'âme rationnelle. Voyez-vous, mes très chers frères, le chrétien est celui qui, de tous les êtres humains, doit agir le plus parfaitement possible par amour pour Dieu, sans aucune passion. Une fois qu'on a compris ça, on a compris que la vie chrétienne ne doit pas être en quelque sorte périodiquement boostée, comme on dit, pour remettre la passion. Ça, ce sont des choses qui, au XXe siècle, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce sont des choses qu'on a trouvées pour insuffler une nouvelle passion, ou plutôt ressouffler sur la passion des chrétiens. Et ça donne lieu à un spectacle extraordinairement lamentable, ça donne lieu aussi à des commerce, ça donne lieu à toutes sortes de choses absolument abjectes et innommables. Voyez-vous, mes très chers frères, nous devons refaire nos forces comme l'aigle par la charité. Il y a divers moyens, il y a diverses choses, il y a un temps pour tout, bien entendu, l'Église pourvoit. Mais il se trouve que ce n'est que dans la charité que nous trouvons l'augmentation de la charité. Car plus on aime Dieu et plus on se méprise soi-même, moins on agit par passion, et plus on agit par charité, par l'amour de Dieu, alors, véritablement, mes très chers frères, nous méritons une augmentation de charité, de telle sorte que la charité, appelant la charité, Dieu couronne toujours plus ses propres dons en nous, jusqu'à les couronner de façon éternelle, récompense ses propres dons, jusqu'à les couronner de façon éternelle par la gloire dans le ciel. Voyez-vous, mes très chers frères, le chrétien... Il ne suffit donc pas, mes très chers frères, que le chrétien soit dans l'Église, qu'il possède un état défini, encore faut-il qu'il court de manière à remporter le prix. Alors, vous allez dire, j'ai compris, mais du coup, je me retrouve face à moi-même et je suis tenté tout d'un coup par le découragement, surtout en ce dimanche de la Septuagésime, où on sait qu'il y a 70 jours qui nous séparent du jour de Pâques, et nous demandons comment nous passerons ce temps de pénitence, puisque nous avons pris un tel coup de massue. C'est notre troisième point, rapidement. Saint Paul nous dit ceci. Parole terrible. « Car je ne veux pas que vous ignoriez, mes frères, que nos pères... ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, etc., etc. Cependant, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. » Alors, vous allez dire, j'étais découragé, là je suis carrément... Si les Hébreux dans le désert, si nos pères n'ont pas été agréables à Dieu, alors et moi ? La question est la suivante. Comment éviter le découragement? Comment rejeter la tentation du découragement? Car c'est une tentation qui se présente aux bons chrétiens, de telle sorte que, assez souvent, on s'aperçoit que les gens qui sont dans la passion sont rarement découragés, ou alors ils le sont, mais ils trouvent en eux-mêmes des manières, des motivations pour ne plus l'être. Le chrétien peut être découragé, puisque même le prophète Élie, qui est encore vivant de nos jours, a été découragé à un moment dans sa vie, et pourtant il venait de trucider les 400 prophètes de Baal de sa propre main. Donc il y avait de quoi être encouragé, il a été découragé, pourquoi ? Parce que, en réalité, le peuple d'Israël ne s'est pas converti véritablement au vrai Dieu. Il y a une manière superficielle d'être découragé, qui consiste à être découragé avant d'agir. Et c'est de la paresse, et c'est de l'infatuation, c'est-à-dire c'est un amour ridicule de soi-même. à quoi bon commencer, puisque je suis déjà découragé parce qu'il faut faire des efforts, etc. Non, voyez-vous, mes très chers frères, ça, c'est de la paresse, c'est de la paresse. Alors, ne jetons pas la pierre, nous sommes tous un peu paresseux, c'est vrai, nous sommes tous tentés par la paresse. Néanmoins, il y a ce découragement-là qui est un découragement qui est, disons-le, ridicule. Si j'ose dire, on a le droit d'être découragé que dans la mesure où on a vraiment agi. En revanche, voyez-vous, mes très chers frères, il y a une manière saine, si j'ose dire, de faire l'expérience de notre propre impuissance. On ne peut combattre le découragement que dans la mesure où on a une idée précise de notre impuissance. Ça peut paraître étonnant. Dans le monde, on dit « ne soyez pas découragés car vous êtes plus fort que vous l'imaginez ». Quand nous sommes chrétiens, l'Église nous dit « ne soyez pas découragés ». Car c'est de la paresse, la réalité c'est que vous ne pouvez rien. Tout d'abord, voyez-vous, je donnerai quelques points, deux points. Manière saine de faire l'expérience de notre impuissance. Nous ne sommes pas meilleurs que nos pères, nous l'avons entendu. La plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Comment serons-nous fidèles, nous qui ne voyons pas les miracles qu'ils virent dans le désert ? Ils ont vu la manne tomber du ciel pendant 40 ans. Ils ont vu le rocher qui les suivait et qui leur prodiguait l'eau dont ils avaient besoin pour eux et pour leurs troupeaux. Et ils n'ont pas plu à Dieu. Comment, nous qui ne voyons pas ces miracles habituels, comment pourrons-nous être plus fidèles qu'eux ? Deuxième considération. À la fin de l'épître, à la fin de l'évangile, il est dit « Et ils murmuraient, contre le père de famille ». Une grande fidélité peut tenter au murmure, nous l'avons dit plusieurs fois déjà, mes très chers frères, au murmure contre la grâce gratuite. La grâce gratuite qui nous a été donnée tôt, qui est donnée à d'autres tard, mais c'est toujours la même grâce gratuite qui est donnée gratuitement par le Dieu qui donne gratuitement. Cette grâce, cette grande fidélité, cette grâce qui produit tôt une grande fidélité peut tenter au murmure et nous faire perdre le ciel pour nous faire mériter, et nous faire mériter l'enfer. Voyez-vous, mes très chers. Alors vous allez dire, mais ce n'est pas encourageant ce que vous dites. Nous sommes en train de sonder notre impuissance. Impuissance au bien, nous ne sommes pas meilleurs que nos pères. Impuissance à conserver le fruit du bien que nous avons fait par la grâce de Dieu, parce que nous sommes peut-être tentés de murmurer contre l'apparente injustice de Dieu qui loge tout le monde à la même enseigne, les derniers venus comme les premiers. Dans la mesure, mes très chers frères, puisque nous voulons combattre le désespoir et le découragement, dans la mesure où nous n'avons aucune confiance dans nos forces naturelles, dans la mesure où nous avons une conscience aiguë de la réalité de notre concupiscence qui nous fait, même de notre justice, un objet de gloire, dans la mesure où nous sommes conscients de cela, mes très chers frères, nous savons que nous ne pouvons pas nous fier en nous-mêmes. Cela doit nous inspirer une très grande défiance vis-à-vis de ce qu'on appelle le meilleur de nous-mêmes et nous maintenir dans une grande reconnaissance vis-à-vis de Dieu et une grande défiance vis-à-vis des capacités de notre concupiscence sans cesse renaissante et sans cesse mortifiée et devant être mortifiée. On ne combat le découragement, mes très chers frères, que en demeurant dans un esprit de supplication et d'invocation propre au néant vis-à-vis du tout. Nous sommes néant, nous ne sommes que créatures, et Dieu, il est tout ce que nous ne sommes pas. Nous sommes infiniment séparés de lui parce qu'il est par lui-même et nous ne sommes que par lui. Les bons et les mauvais ne sont que par Dieu à qui il donne la vie, le mouvement et l'être. Si nous voulons ne pas être découragés, nous devons cesser de mettre notre confiance en nous-mêmes. Parce que sinon, nous risquons ou bien, encore une fois, je le répète, de nous enorgueillir du bien que nous faisons, ou bien de nous décourager, mais de façon stérile, du bien que nous n'arrivons pas à faire, sachant que si nous arrivions à le faire, nous nous glorifierions de notre propre justice. la seule façon de vaincre le découragement, mes très chers frères, voire le désespoir, qu'est-ce que c'est ? C'est de rester dans un esprit de supplication, que nous trouvons par exemple dans le graduel. Vous êtes notre secours dans les moments de besoin et d'angoisse. Ceux qui vous connaissent mettent en vous leur espoir. Car l'indigent ne sera pas toujours oublié. L'attente des âmes ne périra pas à jamais. Levez-vous, Seigneur, que l'homme ne prévale pas. Voilà ce que nous devons dire. Voilà les invocations qui dissipent la tentation du désespoir. Le meilleur moyen et le plus sûr de demeurer dans l'état de justice, mes très chers frères, c'est de demander sans cesse pardon à Dieu pour nos péchés, comme nous le voyons dans le trait. Du fond de l'abîme, je crie vers vous, Seigneur, Seigneur, écoutez mon appel, que vos oreilles soient attentives à la prière de votre serviteur. Si vous preniez garde aux offenses, Seigneur, Seigneur, qui tiendrait debout ? Mais auprès de vous est le pardon, afin qu'on vous révère, Seigneur. Plus nous confessons nos péchés, plus nous disons, Seigneur, sans vous, je ne puis rien faire, car vous-même l'avez dit. Alors devient vrai pour nous cette parole de saint Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Sans le Christ, nous ne pouvons rien. Avec le Christ, nous pouvons tout. Mais avec le Christ, c'est avec le Christ et ce n'est pas avec nous, justement. Les fondements de l'esprit de pénitence, c'est là les fondements de l'esprit de pénitence, mes très chers frères, le seul qui soit exempt de tout découragement et de tout désespoir. Ne pas croire en soi, mais en Dieu uniquement, voilà qui nous exempte, nous garantit contre le désespoir et le découragement. Mes très chers frères, commençons ce temps de pénitence progressive en gardant à l'esprit cela et en invoquant sans cesse le nom du Seigneur pour lui demander pardon, pour confesser notre impuissance et pour lui demander de participer à sa toute-puissance avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.